à Rencontre spirituelle aujourd'hui. Et il est question d'un juif qui m'a fasciné dans ma jeunesse, Jacob Liberman, qui est devenu François Liberman. C'était un juif orthodoxe comme ceux que l'on connaît un peu à Outremont, que l'on voit dans les rues. Il en a été question dans le journal en fin de semaine. On voit que souvent ils vivent pauvrement, et en effet, il a vécu dans un milieu qui était plutôt pauvre, en Alsace. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, il ne savait ni le français ni l'allemand, mais il ne savait que le yiddish et l'hébreu. Il était fils d'un rabbin. Une jeunesse extraordinaire, une jeunesse qui nous rappelle que notre religion que nous fêtons aujourd'hui dans ses origines juives, puisque nous fêtons, n'est-ce pas, la purification, c'est-à-dire la présentation du Seigneur au temple, du Seigneur Jésus, qui était juif, et qui, 40 jours après leur naissance, tous les garçons premiers-nés chez les Juifs devaient être offerts au temple, mais Jacob Liberman n'était pas le premier-né. Le premier-né, c'est Samson, qui lui aussi va devenir chrétien, va devenir catholique. C'est une aventure extraordinaire que l'aventure de cette famille juive d'Alsace. Un peu triste quand on pense au père, qui était un rabbin profondément attaché à sa foi juive. Et Jacob Liberman, donc cinquième fils de ce rabbin de Saverne. Saverne, c'est je dirais une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Il est né le 12 avril 1802, ça vous donne une idée, c'est presque 200 ans, il y a presque 200 ans qu'il est né. Il a été éduqué donc par son père dans la stricte fidélité à la loi des juifs, des ancêtres juifs. D'où, je le rappelle, notre origine, notre religion origine. Nous sommes des juifs spirituellement. Ils avaient les mœurs traditionnelles du peuple juif, comme on peut le voir à Outremont ou dans d'autres endroits ici près de Montréal. Et un peu partout dans le monde, ils sont dispersés. Ça se voit surtout à Jérusalem, quand on arrive là-bas. Et ils étaient donc dans la petite communauté juive locale, qui s'était réfugiée au port de la ville, autour de la synagogue. Il est d'ailleurs né dans la maison juste à droite de la synagogue. C'est un enfant timide que ce Jacob Liberman, qui deviendra François Liberman, le vénérable François Liberman, fondateur des Spiritains, n'est-ce pas? Il était doux, mais il était nerveux et sensible. Il avait une intelligence précoce. On dit qu'il avait une mémoire vive, étonnante. Il était donc le fils privilégié du rabbin, même s'il en était le cinquième, car son père espérait lui transmettre sa ferveur judaïque et son immense science biblique et talmudique. Comme je vous ai dit, la langue de la famille et de son quartier, c'est exclusivement le yiddish. C'est la seule langue qu'il va parler, ainsi que l'hébreu scolaire, jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est là qu'il va aller à Metz apprendre le français un peu en cachette, alors que son père va l'envoyer là pour devenir rabbin. Mais je reviens à sa piété d'adolescent, qui est notoire. Elle est toute établie sur cette parole du Deutéronome, au chapitre 6, verset 4. « Écoute, Israël, le Seigneur est ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui seul. » Alors l'absolu de Dieu imbibe tout son être, comme lorsque nous étions formés, nous, au début des années 30. Dieu était tout pour nous dans l'enseignement qu'on nous donnait. Nous recevions une formation un peu similaire. Il a un cœur d'or, ce Jacob, puis il est aimé de tous, et particulièrement des pauvres, qui sont accueillis dans la maison familiale. Il a raconté sa vie à la demande de son confesseur. Il raconte « J'étais âgé d'environ 20 ans. Mon père, qui était un rabbin distingué, se décida à m'envoyer à Metz afin que j'y achevasse mes études. En agissant ainsi, il se proposait bien moins de me faire acquérir une science que je pouvais tout aussi sûrement trouver auprès de lui, que de me donner une occasion de faire connaître mon savoir, mes talents, et de me rendre recommandable parmi les rabbins qui viennent en grand nombre se former dans cette ville. Mon père me donna des lettres pour deux professeurs de l'école israélite, dont l'un avait été son élève et l'autre son ami. Le premier, malheureusement, me reçut avec une hauteur et une morgue qui me blessèrent profondément, et me firent dès les premiers jours renoncer à le voir. Le second, parce que je me mis à étudier le français et le latin, se montra à mon égard plein de dureté et de prévention. Il me rudoyait sans cesse, et n'avait jamais à m'adresser que des paroles assaisonnées de mauvaise humeur. Et là commença à se rendre sensible pour moi l'action de la Providence. Dieu, qui voulait me tirer de l'erreur dans laquelle j'étais plongé, il disposa mon cœur en me faisant éprouver des ennuis et des rebuts auxquels j'étais loin de m'attendre. Alors c'est dire que le doute envahit son âme. Pourquoi tant de dureté chez le peuple élu de Dieu? On peut se poser la question aussi pour nous, catholiques, pourquoi parfois tant de dureté dans notre Église? Pourquoi? Pourquoi Dieu aurait-il laissé les autres peuples dans l'ignorance? Alors il se pose la question, le peuple élu, comment se fait-il? Et les autres peuples dans l'ignorance? Pourquoi n'y a-t-il plus de prophètes et de miracles aujourd'hui? Il y avait eu tant de prophètes chez les Juifs et tant de miracles dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Bible juive. Alors il écrit, je concluais à rejeter ces anciens miracles comme une invention de l'imagination et de la crédulité de nos pères. À la répulsion pour les argusies talmudiques, ceux qui étudient le Talmud, à nos yeux, à tout le moins, nous donne l'impression qu'il s'attache à toutes sortes de détails, souvent, en apparence, à nos yeux, inutiles. Un peu comme en théologie, dans nos grands séminaires autrefois, on s'attachait à toutes sorte de choses qui étaient des arguties, en particulier en morale, pour savoir ce qui était péché, ne l'était pas, etc. Ça n'en finissait plus. La loi qui prime sur l'esprit. Hein? Alors, à la répulsion, donc, pour les arguties talmudiques de ses maîtres, s'ajoute ce qu'il dit, le désarroi intérieur, aggravé par le passage au christianisme de son frère, le docteur Samson, son aîné qu'il aime beaucoup, en qui il a grande confiance. Il éprouve, devant la conversion de son frère aîné, lui qui veut devenir, en principe, rabbin, il éprouve beaucoup de tristesse, tristesse profonde. Mais il passe tout à coup à l'indifférence religieuse et finalement à ce qu'il appelle une absence complète de foi juive. Il perd la foi. Un ami juif lui conseille d'aller à Paris et d'y voir M. Drac. C'est un juif très important à Paris. Professeur à la Sorbonne, etc., etc. Il avait été le directeur de l'école moderne juive de la capitale de la France, Paris. Il était devenu catholique. C'est miraculeusement, on peut dire, que Jacob obtient de son père la permission de faire le voyage de Paris. Il faut lire ça dans sa longue biographie écrite par Mgr Jean Gay, publiée il y a 20 ans chez Beauchesne. Je ne saurais trop vous recommander cette vie. Ça s'intitule simplement « Liberman » par Mgr Jean Gay, G-A-Y, ancien évêque de Guadeloupe, avec une préface d'André Frossard. Ça se lit comme un, on dit toujours comme un roman, ça se lit avec une grande joie, une grande facilité, puis une grande compréhension aussi de la douleur des Juifs qui voient les leurs devenir chrétiens et ainsi, semble-t-il à leurs yeux, quitter l'adoration d'un seul Dieu, alors qu'ils croient que nous sommes polythéistes, ce que nous ne sommes pas, évidemment. Alors, donc c'est miraculeusement que Jacob obtient de son père la permission de faire le voyage de Paris. Il faudrait raconter ça, c'est extraordinaire, mais je n'ai pas le temps. Puis il y arrive le 1er novembre 1826. Puis là, dans une intervention directe de Dieu, comme c'est advenu pour tant d'autres, je vous ai fait une émission sur les conversions subites. en particulier de Saint Paul sur le chemin de Damas, qui a ouvert ses yeux à la lumière de la foi d'un seul coup, puis André Frossard et tant d'autres. Il raconte, « Monsieur Drac me trouva une place au collège Stanislas et m'y conduisit pour loger. Pour... » Là, on m'enferma dans une cellule, très étroite. Hein? Il me donna l'histoire de la doctrine chrétienne par Lomon, c'est un grammairien, ça, Lomon, ainsi que l'histoire de la religion par le même auteur, et on me laissa seul. Et ce moment fut extrêmement pénible pour moi. La vue de cette solitude profonde, de cette chambre où une simple lucarne me donnait le jour, la pensée d'être si loin de ma famille, de mes connaissances, de mon pays, tout cela me plongea dans une tristesse profonde, et mon cœur se sentit oppressé par la plus pénible mélancolie. C'est alors que, me souvenant du Dieu de mes pères, je me jetai à genoux et je le conjurai de m'éclairer sur la véritable religion. Je le priai, si la croyance des chrétiens était vraie, de me le faire connaître, et si elle était fausse, de m'en éloigner tout aussitôt. Le Seigneur, qui est près de ceux qui l'invoquent du fond de leur cœur, exauça ma prière, et tout aussitôt je fus éclairé, je vis la vérité, la foi pénétra mon esprit et mon cœur. M'étant mis à lire l'Aumont, j'adhérai facilement et fermement à tout ce qui est raconté de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le Messie des Juifs. Il le ressent jusqu'au fond de lui-même. Il ajoute le mystère de l'Eucharistie lui-même, quoique assez imprudemment offert à mes méditations, ne me rebutait nullement. Je croyais tout sans peine. Et dès ce moment, je ne désirais rien tant que de me voir plonger dans la piscine sacrée, c'est-à-dire, vous comprenez le sens, hein, dans le, qu'il se soit baptisé. Alors la veille de Noël 1826, un dimanche, son vœu est exaucé, il est baptisé dans la chapelle du collège Stanislas sous le nom de François-Marie Paul, en mémoire de Saint Paul qui s'est converti et qui est devenu le plus grand de tous les Juifs du début du christianisme, le plus puissant. Car ce sont des Juifs, hein, les premiers chrétiens, les 5 000, 10 000 premiers chrétiens, ce sont des Juifs, il ne faut jamais oublier ça. Une expérience intérieure très forte, donc, l'ébranle de fond en comble, au moment du baptême. C'est celle de la puissance gratuite, bouleversante, de la grâce de Dieu. Il va en faire dorénavant un de ses thèmes favoris. « Ce que je suis devenu, dit-il, c'est à la grâce seule que je le dois. » Faisons donc une pause pour écouter sur un disque qui s'appelle, qui a pour titre « Religion du monde », ce sont de la musique et des chants. Nous allons entendre « Seigneur, mettez un terme à notre exil ». Nous revenons donc à François Liberman au moment où il vient de prendre le nom de François Liberman, lui qui s'appelait jusque-là, jusqu'à la veille de Noël 1826, Jacob Liberman. Il est donc baptisé, comme vous voyez, à 24 ans. Il écrit d'ailleurs, « J'ai reçu le baptême la veille du jour de Noël. Ce jour aussi, je fus admis à m'asseoir à la table sainte. Je ne puis ainsi admirer le changement admirable s'opérant en moi au moment où l'eau du baptême coula sur mon front. Toutes mes incertitudes, mes craintes, tombèrent subitement. L'habit ecclésiastique pour lequel je me sentais quelque chose, cette répugnance ordinaire qui est propre à la nation juive, ne se présentait plus à moi sous le même aspect. Je l'aimais plutôt que je ne le craignais, la soutane et tout ça. Mais surtout, je me sentais un courage et une force invincible pour pratiquer la foi chrétienne. J'éprouvais une douce affection pour tout ce qui tenait à ma nouvelle croyance. Sa peur des soutanes et de tout ça, elle existait dans son enfance et Monseigneur Guy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'auteur de ce livre « Liberman » paru chez Beauchesne, raconte à la page 20, un jour au détour d'un chemin, Jacob, enfant, se trouve subitement face à face avec le curé qui revient du cimetière, revêtu du surplis et accompagné d'un petit servant portant la croix. Pas d'abri pour se protéger. Effrayé et tout en pleurs, Jacob court se réfugier dans la première boutique ouverte et se blottit derrière le comptoir au grand amusement des spectateurs. Alors vous voyez, comme nous qui ressentons parfois, quand nous sommes enfants, un peu d'inquiétude devant certains juifs orthodoxes avec leurs chapeaux et tout ça, c'est un manque de compréhension. C'est un manque, une ignorance. Ah, si l'amour existait davantage. Et justement, l'amour de Marie lui a été aussi donné par Dieu lors du baptême, comme un cadeau. Un cadeau extraordinaire qui va illuminer toute sa vie. Il dit, « Quand l'eau du baptême coula sur ma tête de juif, à l'instant j'ai aimé Marie, que je détestais auparavant. » Je vous rappelle, Marie est juive, c'est évident pour nous tous, c'est une juive. Au sortir du baptême, il manifeste son désir de devenir prêtre. Il va rester 8 mois au collège Stanislas à Paris. Il revêtira la soutane, autrefois à Boré. Puis il va entrer au séminaire Saint-Sulpice, où c'est plein de soutane. Il va y demeurer 4 ans. Il apprend d'une personne que son fils privilégié est devenu chrétien. C'est son père. Il apprend ça. Il laisse éclater sa fureur, ce vieux rabbin, si attaché à sa foi. Il écrit une lettre terrible à François Liebermann, où il accable son fils des pires malédictions d'Israël. C'est la malédiction. Il le considère comme mort, retranché de la famille. D'ailleurs, dans la plupart des familles juives qui sont très attachées, si un membre se convertit au christianisme, il est considéré comme mort. « Mais je suis chrétien », répète François tout en larmes. Et le rabbin mourra sans lui avoir pardonné. En mars 1829, donc à 27 ans, même pas tout à fait 27 ans, la veille de son ordination au sous-diaconat, François Liebermann est terrassé subitement par une crise d'épilepsie. Ça commence. Est-ce le fruit de la malédiction? Il est frappé comme ça dans le bureau de son directeur spirituel. Il y aura plusieurs autres crises qui vont succéder brièvement. Et le verdict est formel, il ne pourra pas devenir prêtre. À la fin de ses études de théologie, on lui communique qu'il doit quitter le séminaire. Alors, quant au monde, dit-il, je ne puis y entrer. Il ne veut pas entrer dans le monde. Il ajoute, Dieu, je l'espère, voudra bien pourvoir à mon sort. Je suis heureux de n'avoir d'autres ressources que Dieu seul. Et cette attitude désarme le conseil du séminaire qui le prend en charge aussi longtemps qu'il plaira à Dieu, disent-ils. Alors on l'envoie au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, à Paris, à la campagne, où il est mis à la disposition de l'économe comme commissionnaire, nettoyeur du parc, cireur de plancher, mais autorisé à porter la soutane. Et c'est là qu'il aura de multiples contacts avec les séminaristes et les directeurs du séminaire. Il établit des liens d'amitié, des confidences. Il devient même le directeur spirituel d'un grand nombre d'entre eux. C'est fantastique. Il n'est pas prêtre. Et ça ne se faisait pas à l'époque. C'était incroyable, impensable. Il va être directeur spirituel comme ça de vive voix, puis par correspondance. Il y a un professeur qui a dit de lui, « Le cœur toujours plein de Dieu, ne voyant que lui seul en tout. » François Liebermann nous embrasait tous dans ses conversations. La main de Dieu était sur lui. Alors, il va rester 6 ans à Issy-les-Moulineaux. On édite à cette époque en format portatif les écrits du fondateur du séminaire, M. Jean-Jacques Ollier, dont je vous ai déjà parlé, il n'y a pas si longtemps. Excellent commentateur, d'ailleurs, de ce grand maître de spiritualité sacerdotale près des séminaristes, François Liebermann est sans doute influencé par lui. Dans sa pensée, dans son style. Il a appris la langue française, il a reçu la foi, il a étudié la théologie dans l'ambiance sulpicienne, mais il est un mystique. Il est un mystique. C'est avant tout de son expérience qu'il parle lorsqu'il disserte sur les voies spirituelles et qu'il assure recevoir des lumières pour les autres. Sa méthode, on pourrait dire, est existentielle. Il se réfère toujours à un chemin spirituel qu'il a lui-même parcouru. Puis il fait ça avec la lucidité puis la certitude de quelqu'un qui voit, un voyant, quoi. C'est un chemin balisé de douceur et d'amour, de miséricorde. C'est les mots qu'il utilise le plus souvent. François Liberman, qui est vénérable, je vous le rappelle, expérimente la souffrance physique. Il l'appelle ma chère maladie, qui est pour moi un grand trésor. C'est ce qu'il écrit à son frère, le médecin catholique. Il expérimente humiliation, incompréhension, et aussi des obscurités intérieures. Ainsi, comme il écrit, cette nuit est excellente. C'est la nuit obscure dont parle Saint Jean de la Croix. Les mystiques parlent de ça, cette nuit. Il écrit ça à un directeur de séminaire. Il dit, cette nuit est excellente car c'est en elle que nos âmes sont perfectionnées. Et avec l'approbation et même le concours de quelques professeurs, il réunit les séminaristes en bandes de piété. C'est comme ça qu'il appelle ça, des bandes de piété. Sur le registre de leur réunion, on le dénomme le Saint Monsieur Liberman. C'est écrit, on a les dossiers. On se passe de main en main les billets qu'il compose, particulièrement à l'occasion des grandes fêtes. Là, un directeur, M. Carbon, a pu dire, Dieu voulait donner à Saint-Sulpice un modèle qui le réforma. Voilà pourquoi il a tenu M. Liberman si longtemps. Vous direz que Saint-Sulpice avait besoin de réformes. Oui, si je vous disais ce qui se passait, c'est assez surprenant. Comme tout se désagrège et tout a besoin de réformes à un moment donné. Et nous donc, on a besoin de réformes à toutes les heures, à toutes les demi-heures, à tous les quarts d'heure. C'est une spiritualité christologique que sa spiritualité, centrée sur le Christ, sur le Messie, quoi. Il a trouvé. La technique, puis l'art de se laisser conduire par l'Esprit-Saint, dans une ambiance de présence de Dieu, de présence à soi-même, de don plénier, de confiance, là, de douceur et de paix surtout, afin de n'avoir de cœur, comme il dit, de cœur d'âme, de corps de vie, d'existence que pour Jésus et en Jésus. C'est ce qu'il écrit. N'avoir de cœur d'âme, de corps de vie et d'existence que pour Jésus et en Jésus. En 1837, donc il a 35 ans, M. Louis, le restaurateur des eudistes, celui qui a rétabli les eudistes, le sollicite pour être maître des novices de sa congrégation à Rennes, en Bretagne. Il va y rester 2 ans, aux prises avec toutes sortes de difficultés, parce que c'est une tâche très délicate, mais aussi avec des épreuves spirituelles mystérieuses. La nuit de l'esprit des hommes d'action. Oui, cette nuit intérieure, ça va le remettre totalement entre les mains de Dieu, ça, pour devenir l'instrument de sa miséricorde. Et c'est en effet le 28 octobre 1839, à Rennes, que dans une illumination intérieure, il apprend du Saint-Cœur de Marie la place qu'elle lui destine dans son Église, fondateur d'un institut missionnaire pour le salut de la race noire. Il va fonder, pour ainsi dire, avec le temps, par des alliances, là, les missionnaires du Saint-Esprit. Parmi les fervents des bandes de Saint-Sulpice qu'a fondé le vénérable François Liberman, ex-Jacob Liberman, il a connu 2 séminaristes créoles. L'un qui venait de Bourbon, c'est-à-dire l'île de la Réunion aujourd'hui, dans l'océan Indien. L'autre séminariste créole venait d'Haïti. Ces 2 séminaristes rêvaient de se mettre au service des esclaves. Il y avait tellement d'esclaves à l'époque. Il y a tellement d'esclaves encore aujourd'hui, mais on ne les appelle plus des esclaves. Ce sont des ouvriers mal payés. Ce sont des enfants qui travaillent dans les pays du tiers-monde. C'est tellement terrible ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a à ne pas avoir vivant dans notre cœur l'Évangile vécu? Comment se fait-il? Alors, ils voulaient se mettre au service des esclaves dont ils avaient connu, eux, pendant leur jeunesse, le sort abominable, misérable. Ces 2 créoles, ces 2 séminaristes créoles, souhaitaient fonder une société de prêtres qu'ils appelaient l'œuvre des Noirs, dans laquelle d'autres séminaristes étaient prêts à s'engager. Et là, François Liberman les a encouragés, en accord avec leur directeur de séminaire. Il les encourage par la parole, puis aussi par des écrits. Et lui-même a été insensiblement porté à se dévouer aux Noirs. Mais aujourd'hui, il a entendu l'appel de Dieu en personne, puis il se met à leur tête. Il dit, « Je laisserai à notre Seigneur le soin de lever tout obstacle. » Il se jette dans l'aventure, quoi. Il part pour Rome. L'ordre est donné de la part de Dieu, écrit-il au supérieur des eudistes. Et la résolution est prise. Je vous rappelle, il était allé à Rennes chez les eudistes pour travailler à la réforme des eudistes. Même s'il n'était pas eudiste. Il y arrive le 6 janvier à Rome, 1840, donc presque 38 ans. Grégoire XVI, le pape, vient de condamner l'esclavage et la traite des nègres par une bulle, par une lettre importante, In Supremo Apostolatus, du 3 décembre 1839. C'est des textes à lire, hein, c'est là qu'on voit que l'Église a pris des positions, peut-être tardivement, mais elle a pris des positions constamment qui l'honorent, même s'il y a des positions qui la déshonorent à certains moments. Là, il remet à la congrégation de la propagande, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire la congrégation de la propagation de la foi à travers le monde. C'est de la propagande, c'est, le mot est mal entendu aujourd'hui, hein, ça ne veut pas dire la même chose. Alors, il remet donc à la congrégation de la propagande un petit mémoire sur les missions étrangères. C'est cette page manuscrite. Il a déposé là en mars 1840, mais un grand obstacle. Il n'est pas prêtre. Il ne peut pas le devenir, il souffre d'épilepsie et c'est un empêchement. Mais il est sous-diacre. Il va donc attendre que le mur tombe, comme il dit. Je ne me sens pas porté à rechercher tous ces appuis humains, dit-il. J'ai présenté mon projet, et si Dieu veut qu'il soit agréé, on saura bien me trouver. J'attendrai. Sinon, je m'en retournerai comme je suis venu. Alors, il écrit d'un trait la règle provisoire de sa congrégation, dès qu'il a résolu, dans la prière, de la consacrer à qui? Au Saint-Cœur de Marie. Un juif qui fait ça. Il y a des gens qui disent que c'est un ancien juif. Non, non, il est toujours juif. Il est juif chrétien. Le Christ était juif, il n'a pas cessé d'être juif à un moment donné, ni Marie, ni les apôtres, ni le cardinal Lustiger. Il loge donc sous les combles, dans un galetas qu'on lui a loué par pitié. Pour revenir aux juifs, un juif est toujours juif même s'il est athée. Hein. C'est plein de juifs qu'on dit athées. Ils ne devraient plus être juifs s'ils sont athées. Mais non, on dit qu'ils sont juifs. Et pourquoi ceux qui acceptent le Messie Jésus-Christ, pourquoi ne seraient-ils pas juifs? Hein? Ils sont juifs. Au début de septembre, il entreprend, comme une occupation pieuse, dit-il, d'écrire le commentaire de l'Évangile selon saint Jean. C'est publié, ça, aux éditions, mon Dieu, je le lis ici sous la main, là, Nouvelle Cité à Paris. Oh, c'est récent, hein, 1987. Je ne saurais trop vous recommander de vous acheter ce gros livre pour lire le commentaire de l'Évangile de saint Jean. C'est un commentaire mystique. C'est le commentaire d'un homme de foi. C'est pas le commentaire presque exacerbant des savants. Là. Non, 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 non. Et qui est très intéressant aussi de lire des commentaires des savants. Ça me passionne moi-même des fois. Mais j'aime mieux encore un commentaire mystique. Il va poursuivre ce commentaire jusqu'à la mi-novembre, donc. Ici au début septembre, comment ça, jusqu'à la mi-novembre. Il ne l'achèvera pas, mais c'est gros quand même, hein, c'est les 13 premiers chapitres. Hein. Et, sinon davantage, 10 semaines pour composer en quelques 700 pages d'aujourd'hui, sur de mauvais cahiers d'écoliers, imaginez, c'est incroyable. Elles ont été écrites d'un seul jet, presque sans rature, à partir du seul Novum Testamentum, le Nouveau Testament, en latin. Une contemplation émerveillée de la parole de Dieu. Il s'interrompt souvent, il laisse aller des élans lyriques de la louange puis de la prière. D'ailleurs, l'original est aux archives spiritaines de Chevilly, et sur la couverture de ce livre, on a reproduit une page de son manuscrit. C'est une écriture très fine, très très fine. Et cette longue méditation, c'est pas destiné à la publication. François Liberman écrit seul à seul avec Dieu. À la manière des pères de l'Église, c'est une exégèse. Une espèce d'exégèse intuitive, je dirais. Une exégèse priante. On y chercherait en vain, d'ailleurs, une œuvre rigoureusement scientifique. Même pour son époque, connaît pas le grec suffisamment. Il ne peut recourir au texte original. Il n'y a aucun commentaire. Puis il n'en a presque jamais lu. Par contre, comme saint Jean, il est à l'écoute des battements du cœur de Jésus. Vous savez, on voit souvent saint Jean, j'explique ça pour les jeunes, la tête appuyée contre la poitrine de son maître Jésus, lors du dernier repas qu'ils ont pris ensemble avant la mort de Jésus, ce qu'on appelle la dernière scène, là où Jésus a établi l'Eucharistie. Et saint Jean a la tête appuyée contre le cœur de Jésus, écoute les battements de son cœur. Alors, il est à l'écoute des battements du cœur de Jésus, mais on peut penser à ça de façon mystique, car c'est du cœur de Jésus que vient tout son amour. C'est du cœur de Jésus que vient la vie de l'Église. C'est l'Esprit Saint qui jaillit. Et ces pages sur le mystère trinitaire, sur les noces de Cana, qui représentent, dit-il, l'Église de Jésus où les âmes sont épousées par le Divin Esprit, l'appel des disciples, la psychologie de Marthe et de Marie, le commentaire du « si quelqu'un a soif », et puis celui surtout qu'il fait là, du bon pasteur, ça ouvre entre autres de vastes perspectives à la connaissance amoureuse, la pédagogie divine aussi. Et même à l'attitude des Juifs puis au conseil approprié pour des futurs apôtres qui courent aisément sur des pages magnifiques. Il dit, je tâche d'aller droit là où le Seigneur a voulu en venir directement. C'est ce qu'il dit. Alors, François Liberman ajoute, je m'efforce de pénétrer dans son divin intérieur pour y voir plutôt sa divine pensée que le sens unique et strict de ses paroles. Et le tout est ponctué de cris de foi et de confiance, d'appels suppliants à l'amour miséricord de Dieu, d'exclamations douloureuses, d'abandon à l'Esprit-Saint, de reconnaissance pleine de tendresse. François Liberman vit alors une expérience intérieure de l'union définitive à la très sainte Trinité. Ce commentaire de l'Évangile de saint Jean jaillit de cette lumière divine. Au-delà d'une perspective individualiste, on peut dire que c'est dans l'univers de Dieu qu'il pénètre. Le royaume, comme il dit, de Dieu dont parle notre Seigneur. C'est la réalité plénière du corps du Christ qui nous montre au fond. On serait déçu si on cherchait évidemment ce qu'on appelle une exégèse, là, une analyse de type contemporain. Pas ça du tout. On est comblé lorsqu'on se laisse saisir par le développement, le dialectique mystique de François Liberman. La Providence finalement intervient, sa santé s'améliore. Après un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, en Italie, j'ai déjà fait une émission là-dessus, le vicaire apostolique de l'île Maurice, toujours dans l'océan Indien, s'offre à patronner l'œuvre des Noirs. Et l'évêque coadjuteur de Strasbourg, son évêque au fond s'engage, à l'ordonner prêtre à ce titre. Il reçoit donc l'ordination sacerdotale finalement à Amiens, dans la chapelle de l'évêque de cet endroit, à Amiens, le 18 septembre 1841, il a 39 ans. Il a attendu 12 ans. Le 25 septembre, il célèbre la messe dans le sanctuaire de Notre-Dame des Victoires, au milieu de ses premiers compagnons missionnaires. C'est la messe de fondation, si on peut dire, de la Société du Saint-Cœur de Marie. Et deux jours plus tard, s'ouvre le noviciat à La Neuville, aux portes d'Amiens. François Liberman pourra faire connaître lui-même la nouvelle société dans les grands séminaires où, depuis Saint-Sulpice, sa réputation de sainteté l'a précédé. Alors là, de nombreux jeunes gens accourent pour s'unir à lui et devenir missionnaires. Il les forme un à un, puis il va continuer durant toute sa vie missionnaire, quoi. Puis durant leur vie missionnaire à eux, il va continuer de les accompagner, de ses conseils et d'encouragement. Sa vie missionnaire ne l'emmènera jamais en dehors de la France, puisqu'il est malade. À partir de cette très vaste correspondance et des centaines de lettres qui ont été publiées, des livres, de plusieurs mémoires à la propagande, des admirables instructions missionnaires, c'est toute une mystique de la mission qui s'élabore sous la plume de François Liberman. C'est basé sur le thème de l'envoi. Hein? Jésus-Christ nous envoie comme il a été envoyé. Notre mission est la sienne. C'est Jésus qui vit dans ses envoyés. Oui, c'est Jésus qui vit dans ses envoyés. Qui souffre dans ses envoyés, mais qui souffre. qui attire les âmes à Dieu son Père et leur communique les grâces par ses envoyés. M'adresse aux jeunes, avez-vous le goût d'être envoyé? Un envoyé? Puis il y a dans tout ça une mystique de miséricorde. Le missionnaire s'en va témoigner la miséricorde divine dont il fait constamment l'expérience personnelle. C'est une mystique d'amour, puis de service auprès des plus abandonnés. Dans un esprit d'humilité, de fraternité, d'accueil, de disponibilité aussi, dit « Dépouillez-vous de l'Europe, de ses mœurs, de son esprit. Faites-vous nègre avec les nègres. Faites-vous à eux comme des serviteurs doivent se faire à leur maître. » Oh, il y a tout un beau texte là-dessus que j'aimerais vous lire. C'est trop long, je n'ai pas le temps. Mais c'est là qu'on voit cette âme de missionnaire qui veut s'identifier au peuple où on a, où on va pour révéler l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Il y a une mystique de zèle chez lui, de force apostolique, de patience aussi, pour construire l'église locale dans ces pays-là, en donnant tous ses soins à la formation du clergé puis des catéchistes locaux. Bref, mystique de sainteté. Il écrit « Le peuple africain ne serait pas converti par les efforts de missionnaires habiles et capables. Il n'en a pas besoin. C'est, écoutez bien, la sainteté et le sacrifice de ses pères, de ses prêtres, qui doivent le sauver. » Les 10 premiers missionnaires partent le 13 septembre 1843. Et beaucoup mourront dans la fleur de l'âge. Mais peu à peu, d'autres vont prendre pied sur les côtes d'Afrique et dans les îles. On sait la suite, et c'est la grande épopée missionnaire ininterrompue. Voici que nous achevons la vie de cet homme extraordinaire qu'est François Liberman, personnage incroyable, inimaginable, petit. Et la démarche du père Liberman, c'est toujours la même. C'est la gloire du Père, le Dieu notre Père avant tout, par la conformité au Christ et à l'action de son esprit. Mais à la différence des moines, qui sont tournés avant tout vers la contemplation, les missionnaires ont à se conformer au Christ quand ils parcouraient la Galilée et la Judée pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est cela, dans la vie du Christ, qu'ils doivent reproduire. À une période où l'on avait tendance à survaloriser la vie contemplative, rempli de carmel et de religieuses contemplatives, et le père Liberman a une position originale. Pour lui, la vie missionnaire est pastorale et non seulement un lieu réel de sanctification, mais cette vie missionnaire est même la vocation par excellence pour lui, car elle se conforme au Christ dans le sommet de sa vie parmi nous, lui qui a été le grand missionnaire. L'influence spirituelle du père Liberman s'est manifestée de façon toute particulière, à travers la direction spirituelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il a exercé pratiquement toute sa vie. Et c'est une chose paradoxale à cette époque, hein? Parce qu'il a été directeur spirituel, comme je vous ai dit, même avant d'être prêtre. Je vous le rappelle, c'est tellement extraordinaire. Non seulement des séminaristes, mais aussi des prêtres qui viennent se confier à lui, puis il accompagne aussi des religieuses et des laïcs, et jusqu'à ses propres missionnaires. Les multiples lettres spirituelles en sont la preuve, hein? Il reconnaît lui-même avoir reçu le charisme de la direction spirituelle avec les grâces de discernement qu'un tel ministère implique. Quand il s'adresse à des débutants, il évite toute expression extérieure. Il cherche à provoquer fortement en eux quoi? Le désir de Dieu. Tant qu'on n'a pas ce désir de Dieu, on ne peut pas avancer du tout. On ne fait que jouer avec des blocs. Désirer Dieu. Et ça, ça vient de l'Esprit-Saint qui est en nous. Il faut le demander. Le rôle du directeur consiste donc, pour établir le désir de Dieu, à freiner toute précipitation, puis à rassurer devant les troubles, puis les inquiétudes. Évidemment qu'il ne suffit pas de commencer, il faut aller jusqu'au don absolu, ce que Liberman appelle se livrer. Prends-moi, Seigneur, hein? Prends-moi. La purification des motivations devient nécessaire pour que l'union à Dieu soit authentique. Et dans toutes les phases de la croissance spirituelle, on peut dire que le vénérable père Liberman est intéressable de conseils spirituels pour soutenir, pour guider, pour encourager. Et c'est lui qui écrit à un jeune séminariste en 1835, « Il faut moins chercher à connaître en quoi nous manquons à Dieu qu'à nous appliquer paisiblement et amoureusement à lui plaire en tous les mouvements de notre âme. » Quand l'amour de Dieu nous est révélé, quand on sait que Dieu nous aime d'un amour infini, on ne peut plus le blesser. Il faut devenir des saints. Il faut s'attacher à lui. On ne peut pas blesser un tel amour. Comment, quand l'amour nous est vraiment révélé, aller blesser, là, cet amour? Un homme qui entend sa femme qui lui dit « Je t'aime tellement, mon chéri », comment peut-il se détourner, s'en aller, sortir, pas aller boire? À moins qu'il soit vraiment alcoolique, qu'il ne soit pas libéré, évidemment, il est malade. Mais grand Dieu, quand un mari dit à sa femme combien il l'aime, qu'il le lui prouve, comment fait-elle pour ne pas répondre à cet amour? Et cet amour n'ira que grandissant, se multipliant. Et ainsi en va-t-il de l'amour de Dieu que Dieu nous porte? Alors on sait que l'esclavage, la traite des Noirs, c'était une pratique courante à la fin du 18e siècle. La traite des esclaves est interdite en 1815, mais il faut attendre en 1848 pour que l'esclavage disparaisse complètement dans les vieilles colonies françaises. Il y a des prises de conscience qui faisaient de plus en plus vives en cette première moitié du 19e siècle pour abolir l'esclavage. Et ça, c'est comme ça qu'ils fondent et qu'ils, ces jeunes, désirent dans cette congrégation du Saint-Cœur de Marie, de travailler à la libération des Noirs. Mais comment aborder une telle évangélisation, hein? C'est là que le père Liebermann va révéler une largeur de vue assez étonnante au milieu du 19e siècle, hein? Il veille donc à s'informer pour se faire une idée exacte de la situation. Et puis, au travers de ces nombreuses lettres, on voit peu à peu germer des institutions qui vont constituer la base du grand plan d'évangélisation présenté à Rome en 1846 sous forme de mémoire. Il y a des intuitions qui sont affirmées très nettement. Tout d'abord, dit la couleur de la peau ne donne aucune infériorité en rien. Quant à l'évangélisation, elle est indissociable d'une promotion humaine visant à améliorer les conditions de vie. Alors le père Liebermann a vécu dans la période qui a précédé la colonisation proprement dite. Alors, la France n'occupe alors sur la côte occidentale africaine que quelques points, là, comme Saint-Louis, Gorée, les comptoirs plus au sud. C'est l'expansionnisme. Mais le désastre de la première fondation va lui révéler de façon claire combien il est impossible d'ignorer les autorités françaises des comptoirs. Alors, il doit travailler en union avec les Français qui sont là. Et il dit, voici ma règle de conduite à l'égard du gouvernement. Nous pouvons marcher sans lui, mais nous ne pouvons pas marcher contre. Et puis le père Liebermann ne veut pas fonder pour son propre compte. Il veut vraiment fonder pour l'Église. Alors l'implantation de l'Église ne peut pas réussir sans une foi profonde. Et cela va aboutir à la création d'écoles et de collèges. Et le père Liebermann écrit en 1846, « Il faudra sans doute un temps considérable pour obtenir le résultat désiré. » Il a tout de suite compris aussi l'importance exceptionnelle des catéchistes pour l'évangélisation. Le chemin va être long. Hein? Et le père Liebermann reste un des pionniers du clergé puis du laïcat africain. En 1848, donc, la Société du Saint-Cœur de Marie fusionne avec la Congrégation du Saint-Esprit, fondée en 1603 par Claude-François Poulard Desplaces. Et le père Liebermann devient supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. Il met particulièrement en relief dans les règlements, là, en 1849, l'année suivante, la consécration à l'un et à l'autre, Saint-Esprit, puis au cœur de Marie, comme facteur essentiel de vie apostolique. Alors, en 1850, c'est rapide, les missions spiritaines s'étendent au Sénégal, au Gabon, à Madagascar, à l'île Maurice. Que de jeunes gens qui se lancent dans la mission. Puis à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, dans l'océan Indien. Ça devient des diocèses, l'élan missionnaire est donné. Puis il y a d'autres instituts missionnaires qui vont se créer à leur tour. Et le grand courant apostolique suscité par le père Liebermann, ça ne cessera pas de s'amplifier. Les fruits en sont aujourd'hui visibles et féconds encore malgré un certain manque de vocation ici. Dieu, le salut des âmes. Dieu, le salut des âmes, ce sont ses dernières paroles au vénérable Liberman. Dieu, le salut des âmes. Ferveur, charité, sacrifice, zèle, oui, zèle pour la gloire de Dieu, le salut des âmes. Les dernières paroles, il meurt à Paris le 2 février 1852, c'est l'anniversaire aujourd'hui, vous pouvez l'évoquer. Les séminaristes à ce moment-là chantent à la chapelle voisine « Et exalta vit humiles ». Vous connaissez ça, hein? « Il a glorifié les humbles », c'est le chant de Marie, le Magnificat. En 1910, on l'a reconnu au Vatican et on a proclamé l'héroïcité de ses vertus, il est vénérable. Il reste de lui quelques 1800 lettres spirituelles, colligées, publiées, des écrits spirituels, dont en particulier les célèbres instructions missionnaires, mais ce que je vous recommande surtout, c'est les commentaires de Saint Jean, même inachevés. C'est l'un des joyaux de sa pensée. C'est un livre paru aux éditions Nouvelle Cité. Magnifique volume, oh, qui peut être un peu cher, j'imagine, puisqu'il a plus de 700 pages. Mais c'est superbe à lire. Superbe. Nous pouvons vraiment invoquer ce grand homme. Je vous lis un petit extrait. Petite prière qu'il a composée. Monseigneur Jésus, j'entends votre cri. Vous m'appelez, Seigneur, me voilà. J'ai soif, mon adorable Jésus, ô grande soif, qui va jusqu'à la défaillance, car je suis tout vide et tout brûlé dans mon intérieur. Prenez-moi en vous, et donnez-moi à boire de votre fontaine du salut. Plongez-moi, submergez-moi, noyez-moi dans vos eaux célestes. Ô oui, Seigneur, je vous en prie, noyez-moi dans ces eaux si désirables et si désirées. Noyez-y ma concupiscence, noyez-y mon orgueil. Noyez-y tous mes vices et tous mes défauts, afin que tout ce qui est en moi, venant de moi, soit mort, et que toute la vieille créature ne vive plus et qu'il n'y ait plus en moi que vous seul. Faites-moi cette grâce, ô mon très doux, très aimable, très amoureux, très aimé Jésus, afin que je ne vive plus que de votre vie, et en votre vie, de laquelle vous vivez dans le sein de votre Père et dans tout le corps de vos élus. Ainsi soit-il. C'est un extrait, ça, de son commentaire sur l'Évangile de Saint Jean, chapitre 7, verset 37.